Magnifique. Alors, voilà, c'est notre dernier cours aujourd'hui sur le Notre Père, parce qu'en effet, dans le cadre d'un cours de Christologie, il faut bien faire un tour quand même vers la prière du Christ. Peut-être un mot d'ailleurs sur la prière en général, hein. Vous allez voir, je vais donner plusieurs informations, indices, enseignements sur la prière d'une manière générale, la prière de demande, et puis sur la prière que Jésus a enseignée lui-même, la prière du Notre Père. Donc voilà le plan que je vous propose. Oui, le voilà. Voilà, non, voilà, ça c'est mon petite introduction. Voilà le plan. Sept parties, vous voyez, c'est magnifique, hein? Qui peut faire mieux que cette partie vraiment, pour donner un cours. Donc, alors, nous allons d'abord nous interroger sur qu'est-ce qu'on sait de la prière de Jésus. Ce sera la première partie. Ensuite, on entrera dans l'intelligibilité du Notre Père, la prière telle qu'on la connaît, qu'on appelle aussi la prière dominicale ou la prière du Seigneur. Donc, je vous expliquerai pourquoi c'est une prière en sept demandes, lesquelles, et le statut de la prière de demande. Puis on verra ensuite le Notre Père sous quatre parties. D'abord l'intitulé, Notre Père, l'adresse, Notre Père des cieux, puis une première partie, puis le centre du Notre Père, le pain quotidien, et troisième demande. Et enfin, on finira avec une petite excursion en Cappadoce, qui nous fera reprendre des questions d'image. Alors voilà, donc allons-y, la prière de Jésus. On désigne ainsi le Notre Père, mais est-ce que c'est bien la prière de Jésus? C'est-à-dire, il y a deux questions. Est-ce ainsi que lui-même priait? Et puis la deuxième question, c'est est-ce bien le texte qu'il a laissé? Est-ce que c'est ça son enseignement ou est-ce qu'il y a eu une tradition ecclésiastique, ecclésiale qui a fabriqué cette prière. Qu'est-ce qu'on peut en savoir? Donc, c'est l'objet de cette première partie. La façon dont Jésus lui-même a prié, nous n'en savons pas grand-chose parce que, au sens où nous n'avons pas de description qu'aurait pu transcrire un observateur. Pourtant, nous n'en savons pas rien, puisque les évangiles nous disent assez souvent que Jésus se retirait pour prier seul. Alors évidemment, puisqu'il est seul, on ne sait pas très bien le contenu de sa prière. Il y a une seule prière dont on sait le contenu, mais là on est sûr qu'il n'y avait pas de témoin, puisque l'Évangile nous le dit lui-même, c'est la prière que nous aurons à méditer bientôt, hein, c'est la prière de Gethsémani, où avec cette intention de prière étrange, Père, que cette coupe s'éloigne de moi. Sauf qu'il n'y a pas de témoin, il le dit lui-même. Hein. Pourquoi ne restez-vous pas une heure avec moi pour veiller? Bon, donc voilà, c'est. Pourtant, je dis, on sait beaucoup de choses sur la prière de Jésus. Ben, on en sait au moins sept choses, sept points. Pourquoi? Parce que c'est un bon juif. Voilà, tout simplement, c'est un bon juif pratiquant, et donc nous savons qu'il a pratiqué sept modes de prière. Donc, vous voyez, c'est un cours presque qui frise la perfection, puisque. Mais on va s'arrêter là. Puisqu'il y a sept parties, sept chapitres, et le premier chapitre est divisé en sept parties. Mais après, ça va s'arrêter. Bon, nul n'est parfait. Alors, sept points. D'abord, nous savons qu'il allait à la synagogue, bien sûr, pour prier avec sa famille. Et ça, il a dû fréquenter la synagogue pendant une trentaine d'années, enfin 25 ans. Avec ses apôtres, ensuite, il y va, et pour y enseigner. Et avant même de rencontrer ses apôtres, probablement allait-il à la synagogue pour enseigner. Vous vous souvenez, on avait fait les adieux à sa mère, et on voit bien qu'à la synagogue de Tibériade, il était le bienvenu, de même chez lui à Nazareth. Les premiers disciples, nous le savons aussi, par les actes des apôtres, ont continué, après sa résurrection, à suivre pour un temps la synagogue, puis progressivement à s'en séparer tout en gardant des rituels juifs de la prière. C'est ce qu'on a vu la dernière fois, vous savez, avec les épîtres de Saint Paul, qui reprennent la poésie hébraïque. Et bien sûr, ce qu'on a toujours gardé, aujourd'hui encore, c'est l'utilisation des psaumes. Et chose fort importante pour toute prière, il y a dans la synagogue, et ça, ça va rester dans le christianisme, comme ça restera dans l'islam, il y a l'agrégation communautaire. On n'est pas des bouddhistes, on n'est pas des hindouistes. Chez nous, la prière a un côté communautaire. La prière a en quelque sorte une efficacité augmentée quand elle est communautaire. Donc ça, c'est le premier point. Le second, sur les sept façons de prier de Jésus, il a évidemment pratiqué la méditation et la manducation de la parole de Dieu dans les psaumes, bon, évidemment, comme tous les Juifs, qu'il connaissait probablement quasi par cœur, et très certainement dans tout ce que nous appelons l'Ancien Testament. Il connaissait ça par cœur, et il n'était pas le seul à l'époque, hein. C'était pas rare du tout que les Juifs pieux connaissent très bien les Écritures, c'était son cas. Il est probablement le seul à les comprendre pleinement, forcément. Mais cette forme de prière qui consiste à lire et à méditer et à apprendre, à répéter la parole de Dieu, prendra dans la tradition chrétienne beaucoup de place. C'est ce qu'on appelle la lectio divina. Pour moi, c'est la plus haute tradition de prière. En quelque sorte, la parole de Dieu est notre nourriture. On verra tout à l'heure à quel point elle est notre nourriture quotidienne. Alors, quid du temps où les gens ne savaient pas lire? Parce qu'il y a une période où les gens ne savaient pas lire. Certainement pas à l'époque de Jésus, où les gens savaient lire, en tout cas les Juifs. Mais, peut-être le savez-vous, il y a eu une déchéance. Après la chute de l'Empire romain, il y a eu une sorte de perte du savoir-lire. Et par exemple, encore au Moyen-Âge, quand on commence à fonder les monastères, les converts, c'est-à-dire les moines, les frères qui ne sont pas moines de cœur, donc qui ne chantent pas l'office, mais qui servent l'abbaye, qui vivent avec l'abbaye, les converts ne savent pas tous lire, loin de là. Par contre, ils apprennent par cœur un certain nombre de psaumes, parce que nous sommes dans une civilisation de mémoire orale. Bon, et l'écriture et le savoir-lire est revenu petit à petit hein, dans l'Église, dans nos cultures, hein, mais dans le Moyen-Âge. Troisième aspect de la prière de Jésus, c'est bien évidemment la contemplation, l'émerveillement, la simple prière devant la beauté des choses. Et ça, nous le savons parce qu'il y a des textes d'évangiles. Regardez les lys des champs, etc. Très souvent, le Christ, enfin, à plusieurs reprises, le Christ nous invite à regarder la nature. Il emprunte des images liées à la beauté de la nature. Et puis, comme tous les religieux de son époque et encore aujourd'hui, il y a évidemment quelque chose de l'ordre de l'action de grâce, de jubilation devant la beauté du monde. C'est ce que nous connaissons sous la forme de captatio. C'est un mot pas très savant hein, du Moyen-Âge qui veut dire le saisissement, le ravissement devant la grandeur des choses, devant la beauté des paysages. D'où un quatrième genre de prière pratiquée par Jésus, c'est la prière de louange, d'action de grâce. Vous voyez, la précédente, la captatio, c'était se laisser impressionner par l'immense, par la beauté. Et là, ce mode de prière, le quatrième genre de prière, consiste à formuler une louange, une action de grâce face à la beauté des choses ou à la grandeur des événements. C'est une sorte de reconnaissance qui monte vers Dieu, une louange. Tu es grand, tu es Dieu. C'est une action de grâce, c'est-à-dire un remerciement, un sentiment de gratitude. Ça, c'est le quatrième type de prière, excellent mode de prière, bien sûr. Il y a aussi une cinquième façon de prier que Jésus a évidemment pratiquée parce que tout le monde la pratique. Quand je dis tout le monde, c'est le monde juif, mais alors là, pour le coup, tout le monde dans le monde entier. C'est la prière répétitive. C'est en effet une pratique universelle. Et donc Jésus et les siens l'ont pratiquée, évidemment. Elle consiste à répéter soit constamment pendant un temps déterminé, par exemple le temps d'un déplacement, une marche à pied, soit de temps à autre au cours de la journée, par exemple le matin en se levant, ou le soir en allant se coucher. Ça consiste donc à répéter une phrase très simple, une phrase ou deux, trois phrases, toujours la même. On a un répertoire assez court, on a deux, trois, quatre formules qu'on apprend par cœur et qu'on répète sans cesse. Ici, vous avez par exemple le chapelet, disons, des orthodoxes, qu'on appelle le Chotki, qui est la plus ancienne façon de pratiquer cette prière de répétition. Vous savez peut-être que le chapelet que nous avons aujourd'hui nous a été inspiré par les musulmans, et les musulmans ont eux-mêmes le chapelet qui consiste à égrener les 99 noms de Dieu, ils l'ont eux-mêmes emprunté aux orthodoxes, aux chrétiens dits orthodoxes aujourd'hui, c'est-à-dire aux chrétiens d'Orient. Donc voilà ce que c'est. C'est une manière, en fait, cette répétition hein, de phrases, c'est pas une évidemment, c'est pas une méditation, c'est pas réflexif. C'est une manière, en fait, de laisser Dieu occuper la place. C'est même une manière d'éviter que autre chose prenne la place. Alors ça peut être un verset de psaume, ça peut être une parole biblique, ou même une prière populaire, la prière du chapelet, ou même une formule, la prière du cœur chez les Byzantins. D'où un sixième type de pratique juive, ce sont toutes ces brèves prières d'usage qui accompagnent tous les gestes de la quotidienneté. Alors, ce n'est pas tout à fait de la prière répétitive, ça. Mais c'est, à chaque fois que vous faites quelque chose, vous avez une prière pour ça. Par exemple, quand vous vous levez, quand vous passez à table, quand vous vous lavez, quand vous rentrez chez vous, quand vous sortez de chez vous, etc. Vous voyez, c'est prévu dans les mitzvot, chaque événement de la vie, il y a une petite formule de prière qui correspond à ces gestes de la quotidienneté. Par exemple, ici, sur cette photo, je vous montre ce que c'est qu'une mezouza. C'est une espèce de petite plaque, souvent fixée à droite du linteau de la porte. Et quand un juif pieux rentre chez lui, il caresse de la main la mezouza et sur laquelle il y a écrit la première lettre de Shema Israël Adonai Eloenum, c'est-à-dire le Shim, une première lettre de cette prière. Et donc, il fait cette prière intérieurement. Écoute Israël, le Seigneur, ton Dieu est l'unique. Et il fait la même chose quand il sort de la maison. Donc voilà, vous voyez, il y a tout un tas de prières comme ça qui sont... qui viennent occuper la quotidienneté. C'est un souci très juif de rendre Dieu présent dans les moindres affaires. Voilà, Dieu, ce n'est pas uniquement le samedi à la messe, si j'ose dire. C'est vraiment une sorte d'habitation. Il habite la quotidienneté. Et donc, il faut laisser Dieu habiter la banalité de notre existence. Dieu, ce n'est pas uniquement pour les grands coups de foudre. Voilà, c'est une grande sagesse, hein, cette façon de prier. Et enfin, il y a le septième mode de prière que certainement Jésus a pratiqué. Alors ça, on le sait aussi, hein, parce qu'il se retire au désert, il s'absente par exemple pendant 40 jours. Là, pendant le carême, on a réfléchi là-dessus. C'est le recueillement. Le recueillement, l'intériorisation, le ressaisissement, on pourrait dire, hein. On ressaisit ce qui a tendance toujours à se disperser par les affairements de la quotidienneté, ou si vous voulez, c'est ce qu'on appelle la méditation. Ces moments où il nous faut être seul, se retirer. Et donc, recueillir veut en effet dire, recueillir veut dire rassembler ce qui est en effet comme émietté. Et peut-être que vous savez, hein, c'est aujourd'hui, ça fait un grand retour, la prière de méditation. Les gens sont avides, alors on va chercher dans toutes les traditions, sauf la tradition chrétienne, c'est quand même un peu navrant. Mais c'est probablement parce que dans la tradition chrétienne, on n'a pas assez enseigné que c'était un mode de prière parfaitement authentique. Évidemment, tous les trucs qui se développent aujourd'hui sont peut-être un peu souvent excessivement centrés uniquement sur soi. Donc, il y a une petite différence avec la prière chrétienne de méditation, qui est plutôt centrée sur un autre. Donc voilà, c'est les sept manières de prier de Jésus. On en est à peu près certains dès qu'on étudie un peu l'anthropologie du phénomène religieux. On peut comprendre chez Jésus que ce soit une sorte de connexion, de greffe, de quête de Dieu, tout comme nous. Alors peut-être que lui, évidemment, il y avait une sorte de communion, probablement plus intensive, plus immédiate, peut-être même sensible, à laquelle nous, on n'a pas la chance de participer à de telles expériences. Enfin, sauf rarement. Alors voyons voir maintenant la prière. Bon, là, on a vu la prière qu'il a pratiquée. Certainement l'a-t-il pratiquée avec ses disciples. Donc, ses disciples ont reçu un enseignement de lui sur ses modes de prière. Mais il y a la prière qu'il a enseignée d'une manière excellente, c'est la prière du Notre Père. D'où une seconde question. Cette prière que nous connaissons aujourd'hui sous l'appellation Notre Père, est-ce que c'est lui qui l'a enseignée comme telle? Vous savez qu'il a laissé, enfin les évangélistes, deux évangiles nous disent qu'il a laissé cette prière à la demande de ses apôtres. Apprends-nous à prier comme Jean-Baptiste apprenait à ses disciples. Et Jésus répond, quand vous prierez, dites Notre Père des cieux, etc. La question, en effet, est intéressante parce que quel est le statut du texte? Alors, c'est une question d'exégète. Hein. Quel est le statut du texte qui nous est parvenu? Avons-nous une idée de son authenticité? Est-ce bien cela que Jésus a enseigné? En fait, il ne dit pas, par exemple, quand ses disciples lui demandent « Apprends-nous à prier », il ne dit pas, enfin, probablement l'a-t-il dit, mais en tout cas, ça n'a pas été écrit dans les évangiles, il ne dit pas, vous savez, moi, quand je prie personnellement, voilà comment je fais. En fait, il laisse, probablement l'a-t-il fait ça, hein, d'où mes sept points, les sept premiers points, c'est évident, et puis il l'a pratiqué avec ses apôtres. Mais en fait, il a donné, très certainement aussi, un enseignement sur la prière type, la prière idéale du chrétien, de ses disciples. Mais nous avons, peut-être le savez-vous, nous avons deux traditions de l'enseignement du Notre Père. Nous avons la tradition de Luc et la tradition de Matthieu. C'est ce qu'on va voir tout à l'heure. Hein. D'autre part, il y a dans ces paroles beaucoup, dans les paroles du Notre Père, beaucoup de choses qui sont déjà connues, qui sont déjà dans l'Ancien Testament. Et donc, Jésus n'a fait qu'un assemblage, comme on dit dans la vigne. Il n'a fait qu'un assemblage heureux de formules qu'il a été picoré à droite et à gauche. Ce qui est de lui, c'est précisément l'assemblage. C'est la qualité du tissage, si vous voulez. Il a été prendre partout des fils et il a composé une trame qu'il a habillée. Et c'est donc ça la prière que nous avons. Probablement a-t-il enseigné plusieurs fois à ses apôtres l'enseignement que nous avons aujourd'hui, l'enseignement du Notre Père. En fait, ce qui est la source de la question, c'est la différence qu'il y a entre Luc et Matthieu. Je vais vous expliquer ça tout de suite. Oui, il y a une question. Michel.
Oui, mon père. Vous, donc, Est-ce que dans l'Ancien Testament, on appelait Dieu mon Père? Est-ce que ce n'est pas une vraie
Bien sûr.
Nouveauté
Non.
De Jésus?
Non, non. Le mot Père apparaît dans l'Ancien Testament. Je vous en ai déjà largement parlé, vous savez, quand j'ai fait le cours sur la Trinité. Père, Fils, Esprit. Pourquoi? Pourquoi on appelle Dieu Père et pas Jéhovah, par exemple, ou Adonai, des noms qui lui ont été donnés. Mais finalement, Père apparaît très souvent. Par contre, vous allez voir, il y a un sens intéressant, évidemment, dans le Notre Père. Alors voilà, voilà, vous avez sur vos écrans les deux textes. À gauche, Luc, à droite, Matthieu. Et j'ai mis en rouge les augmentations de Matthieu, à moins que ce soit des diminutions de la part de Luc. Là, on ne peut pas savoir. Hein. Vous savez, c'est la fameuse question que se posent les exégètes des ipsima verba. Les ipsima verba, c'est quoi? C'est les paroles authentiques du maître. Alors, on sait qu'il y en a, évidemment, c'est incontestable. Et là, vous voyez, ces ajouts hein, que vous voyez en rouge, est-ce que c'est un allègement que Luc a voulu ou est-ce que c'est une augmentation que Matthieu a voulu? En tout cas, très certainement, Matthieu, s'il a fait une augmentation, l'a fait, vu l'importance qu'il donne au Notre Père, qui est au cœur du discours de la montagne. S'il fait des augmentations, c'est en empruntant, évidemment, des paroles à Jésus, parce que certainement, il a bien souvent parlé de la prière. Donc, mais le corps principal est le même. Vous voyez, je vous lis celui de Luc, auquel on est moins habitué. La version de Luc, Père, et non pas notre Père, Père, et vous voyez qu'il y a déjà une différence, Père des cieux, non, Père tout court, tandis que Matthieu dira Père, notre Père des cieux, donc Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Donne-nous chaque jour notre pain quotidien. Remets-nous nos péchés, car nous aussi nous les remettons à nos débiteurs et ne nous emporte pas dans l'épreuve. Bon, pour l'instant, c'est cette traduction-là que j'ai prise. Il y en a d'autres, vous allez voir. Et donc, vous voyez que les ajouts ou les différences de Matthieu sont importants. Parce que, par exemple, à la place de péché, il parle de dette. Ça n'a pas du tout le même sens. Donc voilà, c'est ce qu'on va voir. Alors allons-y avec le corps du texte. D'abord, une première remarque, c'est qu'il est structuré selon sept prières de demande. Et la première chose à relever, c'est que c'est tout entier une prière de demande. Par exemple, ce n'est pas une prière de louange, du genre, comme les psaumes, du genre « Béni sois-tu Seigneur, toi qui fies le ciel et la terre », oui, on pourrait très bien. Ce n'est pas non plus une prière de remerciement. « Je te rends grâce, Seigneur, pour toutes les merveilles que tu nous donnes ». Il y en a plein dans la Bible. Ce n'est pas non plus une prière d'offrande. « Je t'offre, Seigneur, le travail de cette journée », enfin, etc. C'est une prière de demande. Alors, c'est très intéressant parce qu'il faut s'interroger sur le statut de la demande. Il y a sept demandes. Dans Matthieu, dans Luc, il n'y en a que cinq. Les trois premières que j'ai encadrées en rouge concernent Dieu, le concernent lui, ce qu'il est. En gros, on demande à Dieu, sois ce que tu es, pourvu que tu sois vraiment ce que tu es. Les trois dernières concernent plutôt notre vie, notre existence, nos combats, l'affaire des offenses, l'affaire des tentations, l'affaire du mal qui habite ce monde. Et l'ensemble est précédé de « Notre Père qui est aux cieux », qui est une sorte d'appel, et surtout, en plein centre, vous avez ce verset, cette demande extraordinaire, sur laquelle on va réfléchir aussi, « Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. » Alors, pour l'ensemble de ces interprétations, je me sers de deux livres qui sont mes sources, parce que vous imaginez bien que Notre Père a été maintes fois commenté, maintes fois. Hein. Bon, il y a des interprétations aujourd'hui bon, qu'on sait fausses, égarées, pieuses, mais bon, pas très malines, quoi, pas très fondées. D'autres qui sont fondées et pas en accord avec les grands autres auteurs. Par exemple, vous avez Cyprien et Augustin, donc parmi les pères de l'Église. Eh bien, ils ne sont pas d'accord sur quelques points, je vous dirai lesquels. Et donc, je me sers de ces deux livres. Celui de gauche est absolument remarquable, hein, c'est Monique Vincent. Alors, Monique Vincent, c'est une femme très intéressante, elle est décédée aujourd'hui, elle était de Rueil-Malmaison, dans mon département, mon diocèse, et c'était une des premières femmes docteurs en théologie à l'Institut catholique il y a 50 ans. Vous voyez, c'est quand même... Il faut saluer l'exploit, au passage. Monique Vincent a écrit sa thèse « Saint-Augustin, maître de prière ». Elle est publiée chez Beauchesne, et c'est absolument remarquable. Voilà, ça reste un très, très grand travail sur la prière chez Saint-Augustin. Vous verrez, bien souvent dans mon commentaire, je vais citer Saint-Augustin, donc, en fait, je cite Monique Vincent. Et puis, vous avez Carmignac, qui a le premier écrit une thèse contestant une des traductions qui pourtant a été adoptée dans l'Église du Notre Père à propos de la tentation. Ne nous conduis pas en tentation. Ne nous soumets pas à la tentation. Il a contesté ça, avec raison bien sûr. Hein. Et pour ça, il a emprunté ses arguments à un très grand père de l'Église, Tertullien. Donc voilà, c'est mes deux sources, elles sont absolument remarquables. Mais il y en a d'autres qui ont des avis un petit peu différents. Alors, premier point, il nous faut avoir, on va réfléchir sur la prière de demande, et une chose qui est certaine, il nous faut avoir une juste prière de demande. Mais alors, qu'est-ce que c'est qu'une juste prière de demande ? Ça veut dire une prière ajustée, comme ces pièces de mécanique. C'est pour ça que je vous montre cette étrange image. Cette machine est composée de pièces incroyablement bien ajustées. Sinon, ça ne marche pas. Eh bien, la prière, en quelque sorte, c'est ça. Il peut y avoir des prières mal ajustées. Pour autant, ce ne sont pas des prières injustes. Ce n'est pas des prières nocives, ni des prières fautives, mais il y a des prières plus ou moins bien ajustées. Saint Jacques, alors ça, le cours de tout à l'heure à 14h m'a demandé de mettre toutes les citations que je fais sur une feuille. Bon, je n'y ai pas pensé, là. Et donc, la feuille sera bientôt disponible sur le site. Peut-être qu'elle vous sera envoyée par mail. Donc là, je vous donne une citation, vous allez la recevoir. Saint Jacques, chapitre 4, verset 3. Vous n'obtenez pas parce que vous ne demandez pas. Vous demandez, mais vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Vous demandez afin de satisfaire vos convoitises. Voilà ce que dit Saint Jacques. Donc, pour Saint Jacques, il y a des prières mal ajustées. Nombre de nos prières sont en effet des demandes, des réclamations, disons, sont plus des récriminations, des demandes, des réclamations, des exigences, plutôt qu'une vraie prière de demande. Par exemple, on va voir ce que c'est qu'une vraie prière de demande. Mais par exemple, on va demander que quelqu'un guérisse. On va demander que je réussisse à mon baccalauréat, ça commence aujourd'hui. Ou bien on va demander qu'il pleuve, ou au contraire, qu'il arrête de pleuvoir. Alors, d'un côté, vous avez les paysans qui disent ah, il faut qu'il pleuve, il faut qu'il pleuve. De l'autre côté, vous avez les touristes qui disent ah, mais non, pas de pluie, pas de pluie. Alors, évidemment, si c'est les plus pieux qui vont l'emporter auprès de Dieu. Enfin, bon, vous voyez bien qu'il y a quelque chose dans la prière de réclamation qui n'est pas ajustée. Ce n'est pas une mauvaise prière, hein, mais elle n'est pas ajustée. Alors voilà, ça c'est très important, hein, bien comprendre ça. Donc, Augustin en parle abondamment. Hein. Alors lui, il dit qu'à force de prononcer des prières mal ajustées, ce défaut d'ajustement finit par devenir nocif. Voilà, alors il pousse assez loin. Hein, et pourquoi ça finit par devenir nocif? Parce qu'on n'est jamais exaucé. Et donc, on va avoir de Dieu une étrange idée. Et si par hasard on est exaucé, on va avoir de Dieu également une étrange idée. Comme si c'était lui qui devait obéir à nos demandes, et non l'inverse. Dans le Notre Père, on dit bien que ton règne, que ta volonté, pas la mienne, la tienne. Et donc, au total, vous voyez, la vraie prière consiste à s'ouvrir à la volonté de Dieu, pas à lui dicter la mienne. Donc voilà, bon, ça. Alors voilà, donc vous voyez, là j'ai posé la question du statut de la prière de demande. Alors par miracle, parfois, par exemple dans les prières de guérison, bon, admettons, hein, mais c'est des miracles. Parfois, Dieu change les choses. Mais si vous lisez l'Évangile, Dieu, quand il fait des miracles, Jésus, quand il fait des miracles, c'est toujours pour enseigner. Voilà. C'est toujours une leçon, un enseignement. Si Dieu ordinairement semble ne pas vouloir changer les choses, il veut par contre changer les cœurs. Ah, alors ça, dans l'Évangile, vous l'avez presque à toutes les pages, même les demi-pages. Il n'y a pas besoin de lire beaucoup pour voir que Jésus ne veut pas changer les choses, mais les cœurs. Mais ça, nous, on ne veut pas. On ne veut pas changer nos cœurs et on ne voudrait pas que lui change nos cœurs. Et vous voyez, pourquoi? Parce que la présence de Dieu, le but de la prière de demande, dans l'enseignement de Jésus, alors je vous les mets ici, hein, je vous mets les phrases, les mots, hein, c'est de changer les cœurs, d'orienter les volontés, d'animer les esprits, de nourrir les intelligences et de convertir les désirs. Mais nous, ça, on ne veut pas. Or, c'est ça le but de la prière, et c'est ça que Dieu fait. Ah, c'est extraordinairement important de bien comprendre ça. Hein. Alors, ça n'empêche pas que éventuellement il y ait des miracles. Hein. Mais le tout de la prière, c'est bel et bien ça, ce que vous avez sous les yeux. Ce n'est pas les miracles. Le but de la prière, ce n'est pas qu'il pleuve ou qu'il ne pleuve pas. Le but de la prière, c'est ces cinq choses-là. Mais nous, on ne veut pas, hein, changer nos cœurs. Ben non, non. Orienter nos volontés, ben alors certainement pas. Vous voyez, il y a des choses comme ça. Et pourtant. Alors ça, c'est dans l'Évangile. Voilà, donc, vous voyez, si la prière sert à quelque chose, c'est bien à ça. Donc, changer les cœurs, orienter les volontés, animer les esprits, nourrir les intelligences, convertir les désirs. Donc, vous aurez le PowerPoint, hein, comme d'habitude, hein, sur le site. Donc, vous pourrez relire tout ça. Au total, vous voyez, prier, c'est en quelque sorte faire place. Faire place à Dieu. Donc, vous voyez, purifier nos volontés. Calmer nos esprits rageurs et conquérants, rendre modestes nos intelligences prétentieuses, rendre frugales nos désirs, frugaux nos désirs. Et ça, et on a quelques réticences. Donc, on préfère demander à Dieu des trucs, alors que Dieu ne veut pas donner des trucs. Il ne veut pas nous gaver. Ça, on le sait très bien le faire nous-mêmes. Et donc, alors, OK pour la prière de demande, OK pour tout ça, mais alors, du coup, qu'est-ce qu'il faut demander dans la prière? Saint Augustin a une réponse très claire. Que faut-il demander dans la prière? Lui demande-t-on? Et Augustin répond, la seule chose qu'il faille demander dans la prière, c'est Dieu. Il faut demander à Dieu, Dieu, Dieu lui-même. La prière, c'est quoi? C'est s'ouvrir à Dieu. C'est être présent à sa présence, c'est éveiller en nous le désir de lui. qui veut se faire connaître, qui veut se donner. Mais on ne fait pas boire un âne qui n'a pas soif. Et la prière consiste tout simplement à entraîner, exercer la soif de Dieu. Et vous avez une phrase dans l'Apocalypse, hein, qui est très importante, Apocalypse chapitre 3, verset 1-20, vous l'aurez sur vos feuilles. « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, voilà la prière, et ouvre la porte, voilà la prière. J'entrerai chez lui et je dînerai avec lui et lui avec moi. » C'est très étonnant comme promesse de l'Apocalypse. Oui, mais il y a quand même cette condition, hein. Entendre la voix, ouvrir la porte. Et le but de la prière, c'est qu'il entre chez nous. C'est qu'il fasse de nous notre demeure, qu'il devienne tout en nous. Donc, demandez Dieu à Dieu. La seconde demande ajustée, ben, c'est celle de l'Esprit. Saint Jacques à nouveau, chapitre 1, verset 5, « Si l'un de vous manque de sagesse, Sophia, il la demande à Dieu. » De même, dans Luc, donc voilà, là on a un exemple de prière de demande, hein, chez Jacques. Il ne demande pas que les Romains soient boutés en dehors de la Terre Sainte. Il demande la sagesse. De même, dans Luc, chapitre 11, verset 9, juste après avoir donné d'ailleurs les paroles du Notre Père, Jésus précise ce qu'est cette demande, puisqu'il vient d'enseigner cinq prières de demande, le Notre Père, et il dit, il précise, c'est quoi la prière de demande ? Bien, il dit, donnez, demandez, et on vous donnera. Cherchez, et vous trouverez. Frappez, et on vous ouvrira. Comme s'il y avait une équivalence, hein. Chercher, demander et frapper. Ça veut dire chercher avec insistance. Hein. C'est une demande qui est une quête, un désir profond. Et un peu plus loin, donc là on était au verset 9, au verset 13 du même chapitre 11, elle reste encore mieux, encore plus explicite. Si donc, vous qui êtes mauvais, ça commence mal, hein. En fait ça veut dire vous qui êtes mal ajusté. Si donc vous qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus le Père du ciel donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui l'en prient ? Donc voilà, vous voyez, ce que Dieu donne, ce qu'il veut donner, c'est l'Esprit. D'ailleurs, il l'a promis, vous vous souvenez, on a fait les promesses de Saint Jean, les promesses de l'Esprit Saint dans Saint Jean. Et d'ailleurs, nous sommes, ça peut nous rassurer parce que nous sommes capables d'Esprit. Et donc, demander l'Esprit, c'est juste, en quelque sorte, grandir quelque chose qui est déjà en nous. En effet, dans Romains chapitre 8, on dit « l'Esprit parle à mon esprit ». En quelque sorte, nous avons les connecteurs qu'il faut. L'Esprit peut venir chez nous, il est comme un familier. On l'a vu aussi avec le prologue de Jean, et il est venu chez les siens. Quand Dieu vient au monde, il vient chez les siens. Quand Dieu vient dans la prière, il vient chez lui. Nous en sommes familiers. Romains chapitre 8, verset 13, « L'Esprit Saint habite en vous ». Première lettre aux Corinthiens, chapitre 6, « Ne savez-vous pas que vous êtes les temples de l'Esprit ?» etc. D'où un troisième type de demande ajustée, ben les dons de l'Esprit Saint. Voilà ce qu'il faut le demander. Dans la prière, il faut demander les dons de l'Esprit Saint. Alors, on peut les décliner, mais à chaque fois, ce serait un peu long à expliquer, hein. Sagesse, conseil, intelligence, science, crainte de Dieu, piété, force. Et donc, par exemple, hein, je prends un exemple. Les exemples sont toujours pas très bons, pas très bien adaptés. Enfin bon, je prends un exemple. Ce n'est pas la guérison de votre vieux papa qu'il faut demander dans la prière. Mais il faut demander pour lui la force la paix et la foi. Et pour vous, par exemple, il faut demander la consolation, la force aussi peut-être. Donc voilà, ça c'est une juste prière. Hein. Ce n'est pas le succès à un examen ou à un entretien d'embauche, mais c'est le don de conseil, ou bien la force, ou bien la sagesse. Et si vous avez un échec, pareil. Dans les échecs, il faut demander en effet la force de s'en remettre, de ce qu'on appelle aujourd'hui la résilience, qui est faite de force, de conseil et d'intelligence. Au lieu de penser que Dieu n'a pas écouté. Et parce que vous pouvez prier pour que votre père guérisse. Non, vous ne pouvez pas, mais enfin, vous allez le faire quand même. Mais il va mourir. Et donc, vous dites, ah ben Dieu n'existe pas, puisqu'il n'entend pas mes prières. Et c'est un truc aussi qu'on pose, une question qu'on pose à Augustin. Alors voilà, c'est les prières mal ajustées, vous voyez, finissent par donner une idée mal ajustée de Dieu aussi. Autre précision de saint Augustin, hein, pour finir cette question de la juste prière de demande. Tout à l'heure, j'ai dit que si ce type de prière était mal ajustée, pour autant, elle n'est pas impie. Vous voyez, c'est pas une faute, c'est pas grave. C'est quand même une prière. Et toute prière est valable, hein, même quand elle titube. Parce qu'elle exprime plus ou moins un vrai désir, même si on sait mal le formuler. Bon. Et donc, deux choses de saint Augustin pour finir cette question de la prière de demande. Première chose, nos demandes, même maladroites, vont être en vérité épurées dans la prière. Et donc, saint Augustin dit, mais bon, vous en faites pas. Exprimez vos prières et vous allez voir, c'est la prière elle-même qui guérira la prière. Ah, c'est donc, il faut s'entraîner à prier. Et de citer Matthieu, chapitre 6, « Votre Père sait de quoi vous avez besoin avant même que vous ne lui demandiez. » Ah, mais alors les gens protestent et ils disent à saint Augustin, ben « Alors ça sert à quoi de prier ?» Il a tout entendu hein, comme question, il est très contemporain, saint Augustin. On lui dit, « Mais alors ça sert à quoi de prier puisque Dieu sait ?» Et Augustin rajoute en effet, « Oui, vous n'allez pas informer Dieu. Hein. » Il répond, « Lui sait de quoi nous avons besoin, mais vous, non. » Et donc, c'est la prière qui va vous apprendre progressivement de quoi vous avez vraiment besoin. Donc voilà, vous voyez, c'est pour ça qu'il faut formuler des prières de demande. Il faut tenter des formulations. Un peu, vous savez, comme avec un jeune étudiant, il faut qu'il se lance dans des essais de formulation. Et puis, ça se corrigera. Donc voilà, la première chose que Augustin dit, enfin sur les deux dernières que je veux vous laisser. Seconde chose qu'il dit très importante aussi sur ces prières mal ajustées, eh bien nous pouvons quand même les prononcer, ces prières mal ajustées, c'est même une sorte de psychologie spirituelle de base. Vous voyez, les pères de l'Église étaient de bons psychologues, hein. Les pères du désert, Augustin bien entendu, les Cappadociens, c'était des bons psychologues. Et il voit bien que nous avons besoin de déposer les choses. Voilà, c'est... Alors, votre père est malade, il va mourir, ça vous angoisse un peu. Ben, laissez exprimer tout ça. Laissez exprimer tout ça, vous le déposez dans la prière et ça va décanter. La carafe a décanté. Voilà. Vous voyez, on dépose les choses, hein. Même les plus triviales, les plus banales ou les plus graves, les plus douloureuses. Et ça décante, ça s'apaise. Et donc voilà, c'est une sorte de très belle psychologie spirituelle que Augustin nous enseigne sur la prière de demande, même quand elle n'est pas très bien ajustée. Alors la prière du Notre Père, elle, est une prière de demande très bien ajustée. Donc, on va aller la voir maintenant. Alors donc, Notre Père, d'abord, on va commencer par le titre, si vous voulez. Hein. Les premiers mots de cette prière disent trois choses. Père, Dieu comme Père, bon ça j'en ai déjà parlé, donc je ne vais pas y revenir. Notre Père, ça c'est déjà pas mal, hein, c'est la différence entre Matthieu et Luc. Donc je prends la tradition liturgique, celle de Matthieu. Et notre Père des cieux, ou qui est aux cieux. Alors premier point, nous l'avons déjà vu, le Père, dans la tradition juive, le Père, tout à l'heure vous me posiez la question, le Père dans la culture juive, c'est Abraham. Abraham est père d'une multitude, et se trouver dans le sein d'Abraham, c'est une manière de parler du repos de l'être après la mort. D'où cette image que je vous montre. Vous voyez Abraham à gauche qui reçoit une âme. Et donc, notre père Abraham, le patriarche, quoi. Le patriarche, le fondateur, etc. Mais cet aspect identitaire, clanique, ce lignage est nuancé par un nouvel aspect plus affectif qu'on trouve déjà dans l'Ancien Testament, qui n'est plus tout à fait le lien de parentalité, le lien clanique, mais qui est quelque chose en effet d'un peu un attachement existentiel, sensible, significatif. Ajoutons que dans la culture juive, le père, c'est le maître. Et on appelle les maîtres rabouni, ce qui veut dire père, maître. Je vous mets exprès une image de soufi musulman, parce que c'est la même chose dans l'islam, mais on a vu ça, donc j'y insiste pas. De plus, Abba, Père, dans l'Épître aux Romains, chapitre 8, verset 15, la capacité pour nous de dire Abba, c'est-à-dire Père, avec cette dose un petit peu affective et non pas seulement clanique, c'est un fruit de l'Esprit-Saint. C'est l'Esprit-Saint, vous voyez, qui nous lie, enfin, pas qui nous lie, qui nous relie, qui nous met en mouvement vers le Père avec cette petite connotation affective. Ce n'est pas uniquement le chef de la tribu. Et donc, il s'agit d'un attachement profond, spirituel, pas uniquement culturel, comme chez les Juifs, mais aussi d'esprit et de cœur. Toutefois, ce n'est pas le papounet, pas trop bisounours, vous voyez, parce que ça serait infantilisant. Et donc, il y a deux écueils quand ils sont excessifs. Premier écueil, c'est de voir uniquement la dimension culturelle, clanique, si vous voulez, avec, en gros, Dieu, on s'adresse à lui comme étant le père de la fatalité, ou la raison d'État. Et puis l'autre excès, ce serait le côté papounet, le côté infantilisant, c'est un comportement régressif. Les deux, d'ailleurs, sont des comportements régressifs. Donc, voilà pour Père, mais notre Père, second aspect, évidemment hyper important, on en a également déjà parlé, donc je vais être rapide, notre, dans le notre Père, peut nous libérer de cette dernière dérive que je viens de signaler, le côté bisounours, affective, papounet, avoir une relation psychologiquement pas équilibrée. Alors aujourd'hui, beaucoup de gens l'ont à l'égard, peut-être qu'il faudrait dire à l'encontre, de la Vierge Marie, un peu moins à l'égard du Père. Mais c'est la même chose, vous voyez. C'est un rapport, en fait, moi et toi, toi et moi, mais moi d'abord, moi surtout. Ouais, c'est un moi hyper, hyper affectif, sensible. Le Notre Père donne une touche collective de communion qui est absolument indispensable pour la foi chrétienne, une dimension fraternelle. Il n'y a pas de chrétien sans frère. Et il est vrai qu'on prie mieux et différemment en communauté que seul. Et le sommet de la prière, c'est bien la prière communautaire. Ça, C'est chez les chrétiens et chez les musulmans. Chez les chrétiens et chez les musulmans, c'est essentiel. Et chez les juifs aussi, hein. Mais ce n'est pas le cas chez les bouddhistes. Et chez nous, la dimension, il n'y a pas de père sans frère. Ce sont nos frères qui nous révèlent le père et qui nous conduisent au père. Et c'est la relation au frère qui vérifie, c'est-à-dire qui fait vrai, qui authentifie ma relation au père. Et par ailleurs, c'est bel et bien le père qui nous fait frère. Nous sommes frères de tout chrétien, de tous ceux qui partagent le désir de Dieu, même si c'est des parfaits étrangers avec une classe sociale complètement différente, une culture complètement différente, ils sont frères. Bon, nous avons déjà parlé de ça, donc, troisième point, très rapidement, notre Père des cieux. Qu'est-ce que ça veut dire ? Il n'est pas au ciel, bien sûr. Hein. Vous savez, vous connaissez le gag ridicule de Yuri Gagarin, le premier homme à avoir passé la stratosphère, qui dit, en russe, bien sûr, il s'esclave, et tout le monde rit abondamment, ces crétins de soviétiques rient abondamment avec lui, en disant, ah, ça y est, je suis au ciel, ah, c'est marrant, je ne vois pas Dieu. Waf, 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 waf. Enfin, vous voyez, le truc d'imbécile idéologique. Enfin, voilà. Et pourtant, la question, où est-il ? C'est une vraie question. Où est-il ton Dieu ? On nous demande ça hein, dans le psaume 42. Il n'est pas quelque part. Il est partout. Et alors, quand on dit notre Père des cieux ou notre Père qui est aux cieux, on dit ça. C'est absolument formidable en fin de compte comme expression. Pourquoi ? Parce que ça veut dire il est partout, mais il est partout insaisissable. Comment prendre dans mes mains un morceau de ciel ? Comment m'accaparer, m'approprier un morceau de ciel ? C'est pas possible. Et il est partout, il est partout insaisissable, et cependant, je le respire. Il est plus intime à moi-même que moi-même. Et donc, au total, cette expression qui dit un non-lieu dit quelque chose d'extraordinaire sur Dieu, sur la présence de Dieu. Partout présent, partout insaisissable, insaisissable par le concept, insaisissable par l'expression affective, insaisissable par les rites claniques. Il reste insaisissable. Et il est plus intime à moi que moi-même. C'est formidable. Hein. Ça, c'est une formidable expression qu'on a trouvée. Alors, il est déjà dans l'Ancien Testament, hein, mais bon, là, dans Notre Père, évidemment, on le répète, à qui mieux mieux. Alors, on peut s'interroger aussi sur le pluriel. Notre Père qui est aux cieux, pourquoi on dit pluriel ? Le ciel, c'est très bien. Eh bien, en fait, on croyait, c'est juste, là, c'est très circonstancié, c'est très historique. Hein. On a longtemps cru, vous savez, quand la Terre était au centre de tout, quand il n'y avait pas l'héliocentrisme, on a longtemps cru qu'autour de la Terre, il y avait une série de cercles qu'on appelait les cieux au pluriel. Donc, il y avait un cercle noir, un ciel rouge, un ciel de feu, il y avait l'éther, etc. Il y avait des cieux. Et en fait, c'était, disons, cette espèce d'enveloppe à plusieurs strates, plusieurs couches qui enveloppaient le cosmos. Bon, c'est juste ça, hein, le pluriel. Avançons, on a fait juste, je fais juste le titre, disons, l'invocation, notre Père des cieux. Avec les trois premières demandes, cette triple demande revient à une seule, je vous l'ai déjà dit, que Dieu soit Dieu, que ton règne soit sanctifié, non, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Alors, c'est assez curieux parce qu'on ne sait pas comment grammaticalement rattacher sur la terre comme au ciel. Parce que ça peut s'adresser aux trois ou au dernier seul. Que ton nom soit sanctifié sur la terre comme au ciel. Que ton règne vienne sur la terre comme au ciel. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Vous voyez, ça marche très bien. Redire trois fois ce que Dieu est, ce que nous croyons en lui, ce à quoi nous voulons nous accorder, c'est le tout de la prière authentique. Vous voyez, la prière authentique, c'est m'accorder, vouloir m'accorder à Dieu. Et vous voyez, ces expressions, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, veulent dire ça. Que ton nom soit sanctifié, ça veut dire que ta vérité, ta plénitude, la plénitude de ce que tu es, soit connue, reconnue, confirmée. Confirmée dans le monde, confirmée en moi, confirmée par mes frères. Et que ta plénitude soit connue de moi et que j'évite de faire de toi une mauvaise idole, soit un papa bisounours, soit un gros méchant papa. Évite en moi de bâcler, d'abolir, d'abîmer ton nom, c'est-à-dire la plénitude de ce que tu es. Alors ça, c'est la première demande pour y récapituler les deux suivantes. Hein. Alors, vous savez que l'attribution du nom, chez les Juifs, c'est très important. Hein. Le nom, c'est l'identité. Et donc, quand on dit que ton nom soit sanctifié, ça veut dire qu'il ne soit pas bâclé, qu'il ne soit pas amoché par nos idées sur Dieu. Donc, voilà, ça, c'est formidable. Hein. Le nom de Dieu, donc, première chose, c'est son identité. Ce n'est pas un concept, ce n'est pas une idée, ce ne sont pas les fausses images que nous nous forgeons de Dieu. C'est un Dieu tout-puissant qui surveille, qui scrute, qui punit, qui veut que ça souffre, qui veut que ça saigne. Tout ça, c'est des perversions qui font que le nom est blasphémé. Or, le fond de notre prière, parce que nous avons toujours ce risque, c'est que ton nom soit sanctifié. Donc voilà, c'est ça que ça veut dire. Le règne de Dieu, pareil, il faut éviter quelques impasses, mais ça va tellement sans dire. Le règne de Dieu n'a pas grand-chose à voir avec quelque théocratie que ce soit. Ça ne relève pas de la gouvernance. Quand on dit que ton règne vienne, on ne prie pas pour que Macron soit Soliman le Magnifique. Vous voyez, ça n'a évidemment rien à voir. Ce qui a à voir, c'est qu'il nous faut, nous, travailler et féconder ce monde, et donc aussi son gouvernement, mais qu'il faut travailler toutes choses sous la motion de l'Esprit-Saint, que ton règne vienne. Et puis, la troisième chose, c'est la volonté de Dieu, que ta volonté soit faite. Elle ne relève pas du fatum latin, vous savez, qui a donné fatalité, c'est-à-dire Dieu aurait tout décrété de moi. C'est écrit, vous savez, c'est écrit. Et un bon génie s'est penché sur mon berceau et a écrit toute ma vie. Et il y a un certain nombre, on le croit de moins en moins quand même, hein, mais il y a un certain nombre d'interprétations qui voient Dieu comme celui qui a tout décrété d'avance. Ben, ce n'est pas ça, ça c'est le Dieu des Romains. C'est le dieu des mythologies et des sagas nordiques, avec les elfes. Ce n'est pas le dieu des chrétiens. Alors ça, c'est embarrassant, parce que ça reste quand même dans nos cultures lexicales. Je vais vous donner un exemple. Moi, j'enseigne au séminaire d'Issy-les-Moulineaux, vous savez, les futurs prêtres. Et M. Ollier, qui a fondé en son temps les séminaires, disait « Le séminaire, ça sert à savoir... quelle est la volonté de Dieu sur vous ?» Ah ben bonjour, hein. Comment on fait pour savoir quelle est la volonté de Dieu sur moi ? La volonté de Dieu sur moi, c'est que je sois déifié à la fin des temps. La volonté de Dieu sur moi, c'est que je sois authentiquement chrétien. La volonté de Dieu sur moi, c'est pas que je sois maître pâtissier à l'âge de 25 ans, ou que je sois écrasé par un bus à l'âge de 44. Vous voyez, quelle drôle d'idée. Et pourtant, ça traîne dans notre esprit. Et donc, il faut en effet, vous voyez, cette première partie du Notre Père, il faut s'y attarder, que ton nom soit sanctifié. Évite-nous de nous égarer dans des idoles, dans des fausses routes, dans des fausses images de toi, dans des dieux pervers. Je note encore que ces trois demandes, hein, sur ces trois demandes, que la première va de nous. Ah ben ça, c'était l'image qui précédait. C'est-à-dire le fait que Dieu soit tout en nous, qu'il attire tout en nous. Voilà la volonté de Dieu, hein, qu'il rayonne sur toute chose de notre existence. La volonté de Dieu, ce n'est pas que je sois ordonné prêtre à l'âge de 27 ans. J'aurais fait un très bon colonel en chef dans le régiment français. J'aurais fait probablement également un très bon architecte. Donc, vous voyez, ouais, voilà, c'est bon. Je note donc encore sur ces trois premières demandes. Alors, j'ai fait des petits schémas, bon, ils valent ce qu'ils valent. Hein, que les trois premières, donc, ça va de nous à Dieu. Nous, c'est en bas, vous voyez, c'est le cube. Et Dieu, c'est la sphère. Hein, je vous ai déjà montré ça. C'est-à-dire, c'est notre louange qui monte à Dieu. C'est notre désir de purifier notre image. Et nous tendons vers Dieu, notre louange, nos comportements. La seconde va de Dieu vers nous. La première demande, que ton nom soit sanctifié. La seconde, que ton règne vienne. Il y a comme un mouvement descendant. Vous voyez, c'est-à-dire, règne sur nous. La première, une louange. La seconde, un mouvement d'ascendance, c'est-à-dire il vient à nous. Et la troisième va de nous au monde, c'est-à-dire, voilà pour éclairer l'ascendance, et la troisième, que ta volonté soit faite, va de nous au monde. Voilà, c'est-à-dire, étant entendu, c'est les deux premiers mouvements, alors en effet, que ta volonté soit faite par nous en ce monde. Donc voilà comment on peut comprendre les choses. Hein. Alors, que ta volonté soit faite, c'est par exemple le déploiement de la Caritas. Bon, alors sous tous ses aspects, hein, cette image ou mille autres possibles, grâce à Dieu, hein, la Caritas a bien des facettes. Alors voilà pour les trois premières. Voilà. Est-ce qu'il y a des petites questions ?
Oui, je voulais poser une question.
Allez-y, oui.
Mais comme oui, c'est curieux que on emploie le mot nom, puisque dans la tradition juive, il fallait pas prononcer le nom de Dieu.
Oui.
Alors, qu'est-ce que ça veut dire enfin, vous l'avez un peu expliqué.
Ah bah oui.
Que le nom n'était pas le vrai nom, c'était un concept.
Oui, c'est la plénitude. Hein. Mmh. Vous savez, comme quand Simon devient Pierre, en fait, c'est la plénitude de son être, la vérité de son être, qui est dorénavant sous la tutelle de Dieu, on pourrait dire. Hein. Et donc, quand on dit que ton nom soit sanctifié, lequel nom de Dieu ? Yahvé, non, c'est pas ça. C'est que ta vérité soit exposée, en fait.
D'accord. OK, très bien.
Et Josiane aussi.
Oui, lorsque vous parlez de la volonté de Dieu par rapport à nos destinées, entre guillemets, vous dites, alors, c'est pas lui qui choisit, effectivement, qu'on va être pâtissier à 25 ans ou mourir à 44, mais... alors, moi je me pose la question, justement, vous parlez de la vocation.
Oui.
Il ne décide pas que je deviens prêtre, mais je pour autant, c'est quand même lui qui appelle, là.
Oui.
C'est quand même lui qui vous appelle, et vous répondez, vous, en tout cas pour ce métier-là, je veux dire, pour cette vocation-là, qui est quand même liée à Dieu lui-même. Et j'ai une autre question. Qu'est-ce qu'il en est de ce qu'on demande dans la prière intimement et qu'on dit, bah, Seigneur, dis-moi ce que tu veux pour moi, dis-moi ce que tu attends de moi, Ça veut dire qu'il a bien choisi de quelque part quand même de notre destinée, que c'est quand même peut-être pas
écrit. Oui, c'est des bonnes questions. Hein. La deuxième est plus intéressante encore que la première. En effet, on a bien raison de demander à Dieu « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» ou bien « Que veux-tu de moi ?» quoi. Sachant que la réponse nous est donnée tout simplement par approfondissement d'une lecture de notre vie, car Dieu y est, et d'une lecture de la parole de Dieu, car Dieu y parle. Et donc, en fait, Dieu nous envoie sans cesse des signes, et nous sommes mutuellement les uns signes pour les autres. Et là va se trouver la réponse. Je vais croiser quelqu'un qui va faire que ma vie ou telle question va trouver une réponse. Je vais vivre tel échec qui va faire que j'acquière de la modestie ou mon orgueil décroît. Eh bien, ça, c'est la manière dont Dieu agit. Non pas l'échec, mais la leçon que je vais savoir en tirer.
Et c'est là qu'on peut dire qu'il n'y a jamais de hasard.
Donc on dit souvent qu'il n'y a pas de hasard. Ou qu'il est toujours là. Parce que l'échec est un hasard. Mais c'est lui qui va me permettre de vivre l'échec d'une manière qui va me grandir. Ou par tel compagnon qui, comme par hasard, le jour où j'en ai besoin, mais ça nous arrive tous, hein, le jour où j'en ai besoin, va nous dire la parole et lui-même ne va quasiment pas s'en rendre compte. Et quand on lui dit, 5 ans plus tard, quand tu lui dis « Ah, tu sais, un jour, tu m'as dit ça, et ça m'a sauvé la vie », il écarquille les yeux en disant « Ah bon, il se souvient à peine ». Mais en fait, il a été un ministre de l'action de Dieu. Bon, voilà. Et en fait, pour la vocation religieuse, hein, c'est pareil. Voilà. Oui. Mais bon, on essaye de répondre, hein, c'est pas définitif.
Oui, bien sûr. Je trouvais que par rapport à d'autres métiers ou d'autres destinées, c'est quand même très particulier. Donc,
Oui, c'est vrai. Oui, parce que c'est plus prenant, ça prend tout l'être.
Oui, c'est ça. Et ça demande beaucoup de sacrifices.
Ouais, enfin...
Pour la famille.
Ah, peut-être. Bon, voilà, on peut continuer ? On va arriver à un gros morceau, c'est le cas de le dire, un morceau de pain. Le pain quotidien, il est au centre, hein, il est au centre du Notre Père, c'est pas pour rien, autant chez Luc que chez Matthieu, et dans la version liturgique par conséquent. Comme le fait trois choses à propos du pain quotidien, comme le fait justement remarquer Massimo Montanari dans ce livre « la chair et l'esprit », le pain n'est pas seulement, et le vin c'est pareil, le pain n'est pas seulement une nourriture, un aliment. En vérité, c'est toute une culture. C'est une culture méditerranéenne. On y est attaché pour des raisons symboliques, sociales, pas uniquement nutritives. Mais plus universel encore si on comprend ce qu'implique ce type de nourriture qu'est le pain. Et donc, vous voyez, dans l'épaisseur de cette compréhension, nous allons comprendre ce qu'est cette demande, cette prière de demande. Donne-nous notre pain quotidien. Et donc, plus encore, plus universel, qu'est-ce qu'implique le pain? Eh bien, il implique une organisation sociale, une compréhension du cosmos, un choix des grains, un usage méthodique de la nature. Il suppose la pratique et la maîtrise de la fermentation. De même, d'ailleurs, pour le vin et pour la bière. C'est Monsieur Pitt, hein, Monsieur Jean-Robert Pitt, qui fait remarquer très justement que la fermentation, c'est une véritable transsubstantation. Ça change de substance. Mais c'est un miracle permanent que, dont nous vivons tous les jours et dont on ne se rend pas compte. S'il n'y avait pas la transsubstantiation qu'est la fermentation, nous serions tous malades à manger de l'avoine, à manger du seigle cru, on aurait un ergot de seigle, la moitié d'entre nous. La fermentation, c'est un miracle, c'est une prédigestion, c'est un estomac, c'est un exo-estomac. C'est complètement fou quand on y réfléchit bien. Et donc, quand on dit notre pain quotidien, vous voyez, on dit tout ça, cette espèce de magie que nous avons trouvée, qui nous a été donnée, qu'est la fermentation. Et puis, tous les facteurs sociaux que je viens d'énumérer, qui nous disent qu'il n'y a pas de pain sans paix, sans système social. Et puis, évidemment, le pain porte en lui-même la vertu du partage, etc. Et vous trouverez des choses excellentes dans ce livre donc de Massimo, La chair et l'esprit, ainsi que dans le livre de Jean-Robert Pitt, Le vin et le divin. Et donc, vous voyez, dans cette demande centrale, on en appelle à toute une épaisseur sémantique. Le pain quotidien, c'est notre condition humaine, en fait, dont il est question. On ne demande pas à manger, on demande que notre condition humaine soit stabilisée quotidiennement, que nous puissions être en condition d'humanisation, que nos conditions d'humanisation ne soient pas détruites, c'est-à-dire qu'il y ait la paix plutôt que la guerre, qu'il y ait la justice, le travail, l'organisation sociale, l'accord avec la nature, le commerce, les différents métiers, la table fraternelle, la vie familiale, etc. Et c'est ça qu'on demande, c'est ça le pain. Le pain quotidien, c'est ça. Et quand on demande « donne-nous notre pain quotidien », on demande ça. C'est incroyable hein, comme richesse sémantique. Et un juif applaudirait à ce que je viens de dire. Alors peut-être pas un indien, qui n'a pas tout à fait la même culture du pain. Mais dans la Méditerranée, vous voyez, c'est évident qu'on a cette culture. Alors j'annonçais trois choses, c'était la première avec ce livre. La deuxième chose, donne-nous notre pain quotidien. Il ne s'agit pas ici de quémander auprès de Dieu ou de vivre des aides sociales, car il faut bien travailler, c'est humanisant de travailler. C'est bien plus humanisant que d'attendre que tout vienne du ciel. Saint Paul l'a rappelé dans son épître aux Corinthiens quand il exhorte tout le monde à travailler de ses mains en disant « Non, non, la fin du monde n'est pas pour les jours qui viennent. Donc, mettez-vous au travail. » Lui-même travaille. Hein. Et donc, il faut arrêter de croire que tout vient du ciel. Du moins, « donne-nous » exprime que tout cela, tout ce travail, toute cette culture, c'est un don. C'est-à-dire, au sens, c'est une chance incroyable. Et c'est même une bénédiction. Et donc, ce second aspect, demander à Dieu, donne-nous, c'est en fait reconnaître que c'est un don. Que c'est un don et que c'est une bénédiction pour nous. C'est un don au sens, non pas que je le quémande, non pas que c'est comme la sécurité sociale, mais que c'est une véritable bénédiction. Dieu merci, nous sommes en paix. Dieu merci, nous avons du pain. Dieu merci, nous pouvons manger entre frères, etc. Recevoir notre humaine condition avec gratitude, car ça nous est donné. Ce n'est pas une conquête, ni un dû, ce n'est pas à cause de mes mérites. Tout ça nous est donné. Il nous faut attendre de Dieu tout, et non tout attendre de Dieu. C'est extraordinairement important hein, de comprendre ça. Il nous faut attendre de Dieu le tout, le seul, et non pas tout attendre de Dieu. Il faut mettre notre tout, notre vérité en Dieu. Ce que je suis appelé à être, c'est lui qui me le donne. c'est lui qui fera grandir le tout de ce que je suis. Mais les choses de ce monde, il nous faut y travailler. Je vous cite une petite phrase de Saint Ignace qui est remarquable. Vous l'aurez sur votre feuille, hein, qui va vous arriver là dans les jours qui viennent. Voilà ce que dit Saint Ignace, c'est une prière hein, qu'il écrit, et il nous propose de la répéter. Et il dit « Crois en Dieu comme si le cours des choses dépendait de toi et rien de Dieu. Cependant, mets tout en œuvre comme si rien ne devait être de ton fait. » C'est extraordinaire le truc. Ça revient un peu à tout ce que j'ai dit auparavant. Hein. Il faut attendre de Dieu tout, le tout, mais non pas tout attendre de Dieu. L'abandon à la providence divine, ce n'est pas tout attendre de Dieu. C'est être toute attente de Dieu. Alors là, c'est l'école du Carmel que je suis en train de citer. Hein. Être toute attente, être entièrement attente, accueil de Dieu, ouverture à Dieu. Donc voilà, ça c'est la deuxième chose très importante sur le « donne-nous ». « Donne-nous » n'est pas une protestation au guichet de la Sécurité sociale, enfin qui n'existe plus d'ailleurs, mais bon, voilà, vous avez bien compris. Trois choses, voici la troisième. On a souvent spiritualisé cette demande, « donne-nous notre pain quotidien ». On a raison, je suis en train de le faire. Enfin, moi, je fais un enracinement plutôt anthropologico-théologique. On l'a souvent spiritualisé en disant « c'est la satisfaction quotidienne, ça ne peut pas être le pain quotidien ». Bon, oui, en effet, ce n'est pas la soupe quotidienne. Mais il y a une erreur qu'on a souvent faite, c'est une erreur carrément, hein. C'est quand on dit que le pain quotidien, c'est l'Eucharistie. Parce qu'on le dit. Hein. Et pourquoi je dis que c'est une erreur de dire ça? Eh bien, c'est parce que l'Eucharistie n'a jamais été quotidienne dans la vie du chrétien. Et donc, ça ferait 20 siècles, 21 bientôt compris, un truc qui n'a jamais existé. Ça pose un problème. Alors, quand je dis que la prière quotidienne n'a jamais, que l'Eucharistie quotidienne n'a jamais existé, sauf pour les moines bénédictins, c'est eux qui ont inventé la messe quotidienne. Donc, les moines bénédictins avaient la messe quotidienne, c'est dans la règle de Saint-Benoît, ça s'est imposé progressivement, surtout avec Benoît d'Anian, à partir du 8e siècle. Mais les chrétiens, comme vous et moi, qui apprennent le Notre Père, dès le berceau, à qui on fait dire le Notre Père tous les jours, plusieurs fois par jour, et on a bien fait de leur apprendre ça. Ça ne peut pas être l'Eucharistie, parce qu'ils ne communient jamais. Ou, à partir du XIIe siècle, on leur demande de communier une fois par an, minimum. Parce que si un pape demande ça au XIIe siècle, c'est parce qu'on ne communiait plus. Alors, à partir de quand ne communiait-on plus? Probablement 7e siècle, 7e, 8e siècle, probablement. Hein. Et 12e siècle, un pape s'en rend compte et dit « mais catastrophe, un des sacrements majeurs que le Christ a institué n'est plus pratiqué ». Et donc il dit « non, non, il faut communier, une fois par an, au minimum ». Et le pape Pie XI, dans l'entre-deux-guerres, lui, il dira « il faut communier plus fréquemment ». Donc, vous voyez, ça, la prière, ceux qui interprètent, c'est principalement une idée du 19e siècle, hein, en fait, pour favoriser la dévotion eucharistique. Mais c'est une mauvaise idée sur le Notre Père. Vous voyez, les explications que je viens de donner, là aussi qui viennent de Cyprien, les explications que je viens de donner sont bien plus importantes, hein, bien plus riches, bien plus fortes. Il s'agit donc de ce que... Il s'agit de ce que Dieu donne comme nourriture, comme substance pour la foi. Et là, lisons l'Évangile, et nous savons que Dieu donne comme substance pour la foi trois choses. Nos frères, la charité et la parole de Dieu. Les sacrements après. Après les sacrements. Alors là, quand vous dites ça aujourd'hui, la moitié du clergé étouffe. Étouffe en pustulite aiguë. Parce que eux, pour eux, il n'y a que les sacrements. Eh bien non, ce n'est pas dans l'Évangile. Dans l'Évangile, on nous dit que ce qui nous fait vivre, c'est nos frères, c'est la charité, c'est la parole de Dieu. Le Christ, hein, déjà, le répète, vous savez, on l'a lu au début du carême, l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et puis, dans l'Ancien Testament, dans les psaumes, vous avez évidemment un nombre de répétitions sur la parole, et la lumière sur ma route, la force qui me nourrit en chemin, etc. C'est le prophète Élie, bon, etc. Donc voilà, donc c'est hyper important, vous voyez, de bien comprendre ça. Hein. Et de nos jours, hein, se nourrir quotidiennement de la parole de Dieu, c'est vraiment possible. On a absolument tous les moyens. Et en fait, il faudrait, c'est un véritable exercice spirituel que de s'y mettre. Alors, on va aller voir les trois dernières demandes. Oui, on a encore le temps. Trois dernières demandes. Je vous ai dit, on les oriente, bon, c'est une interprétation classique, hein. On les oriente traditionnellement, trois premières demandes, que Dieu soit Dieu, trois dernières demandes, que notre existence soit embellie, soit enrichie par le fait que Dieu est Dieu. Et pour que Dieu comme Dieu vienne habiter mon existence quotidienne, alors il faut la parole comme nourriture quotidienne. Voilà, voyez la logique. Hein. Donc c'est une structure à 7 points qui est quand même très intéressante. Alors, on va aller voir ces trois prières de demande. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. C'est la version liturgique. Vous vous souvenez que celle de Matthieu ne disait pas tout à fait ça, et celle de Luc non plus. Donc, c'est un compromis entre les deux. On va essayer de comprendre pourquoi. Ne nous laisse pas entrer en tentation, alors là, très connu, surtout depuis qu'on a traduit ainsi. Et délivre-nous du mal, c'est la plus facile à comprendre. Parce que le mal, c'est la chose la plus difficile, qui est vécue par tous. Bon, bref, alors on va commencer par « Pardonne-nous nos offenses ». Ou précisément, dans Matthieu, chapitre 6, verset 12, « Remets-nous nos dettes ». Comme nous avons remis à nos débiteurs. Alors, le problème de la traduction liturgique, ça va être de faire coïncider ça avec le bug qu'a introduit Saint Luc quand il dit « Pardonne-nous nos péchés ». Une dette, ce n'est pas un péché. Tout à l'heure, je vous le disais, à propos du pain, quantité de choses nous sont données. Nous sommes en dette. Et le fond de la prière, c'est de reconnaître que nous sommes en dette. Et c'est tout nous est donné. La prière d'action de grâce est fondée là-dessus, sur une espèce d'évidence qu'un adolescent ne peut pas le faire, un enfant ne peut pas le faire. Hein. Et c'est le propre de l'âge mûr que de reconnaître qu'en effet, tout nous a été donné. Tout nous est confié. Ah, et ça, il faut avoir une certaine maturité. Et donc, c'est une dette. Nous sommes en dette. Nous sommes en dette d'être. L'être même nous a été confié. Mais c'est un don qu'on ne saurait pas rendre. Et on ne sait pas rendre tout ce qu'il nous a donné. Donc, remets-nous nos dettes. Voilà, vous commencez à comprendre l'interprétation de Matthieu. Le mot « dette » exprime bien comment nous devons. Beaucoup plus d'ailleurs que le mot « don », parce que ce qui est donné est donné. La dette, nous sommes en dette, c'est-à-dire avec ce sentiment de gratitude, ce sentiment de devoir à notre tour. Et cette quatrième demande consiste en fait à exprimer une immense gratitude. Gratitude qui ne peut naître en nos cœurs que si nous-mêmes, nous nous mettons à donner de l'essentiel. Et c'est la raison pour laquelle un enfant et un adolescent ne peuvent pas comprendre ça. Parce qu'ils n'arrivent pas encore à donner de l'essentiel. Ils n'arrivent pas à comprendre que donner de l'amitié, c'est donner de l'essentiel. Donner du temps, c'est donner de l'essentiel. Sans espoir de retour. Les relations affectives mal équilibrées, elles demandent toujours un retour. Et c'est normal d'ailleurs, hein, parce qu'il faut sacrément de maturité. Et donc, premier sens, très riche, hein, et ben que n'a pas retenu la version liturgique. C'est pas ce sens-là, pourtant, à mon avis, le meilleur, hein, dans saint Matthieu, c'est clair dans saint Matthieu, mais c'est pas ce qu'a retenu la version liturgique que nous pratiquons. Puisque nous, nous disons « pardonne-nous, pardonne-nous ». Ben, pourquoi ? On ne pardonne pas une dette. Pardonne-nous. Alors, ils n'osent pas dire nos péchés. Pardonne-nous nos offenses. Bon, mais donc, on s'est rapproché de Luc. Et donc, Luc, lui, il dit clairement hein, « remets-nous nos péchés comme nous remettons à nos débiteurs ». Donc, vous voyez, il y avait quand même quelque chose qui aurait pu réconcilier Luc avec Matthieu, le débiteur. Et manque de peau, on s'est trop attardé sur péché. Péché, alors, aurait pu être tempéré par le mot dette. Et en fait, dans la liturgie, vous voyez, il y a eu ce glissement de sens. Remets-nous nos dettes parce que nous devons. Il y en a glissé lentement dans les mentalités, hein, dans les mentalités collectives, dans la vox populi, qu'on appelle le sensus fidei, ce qui a fait qu'on a abouti à cette traduction que nous avons aujourd'hui dans la liturgie. Nous devons, ça veut dire, un peu à cause de Luc, nous aurions dû, et puis on va glisser encore un petit peu, je n'aurais pas dû. Voilà. Et donc, entre dette et devoir, entre dette et faute, le sens a bougé. Et pourtant, ici, il s'agit bel et bien de remettre les dettes qui sont devenues, dans la prière liturgique, remettre les offenses, c'est-à-dire pardonner. Et ce n'est pas tout à fait la même chose. Hein. Mais c'est dans Luc, incontestablement. Et donc, vous voyez, le compromis dans la traduction biaise quand même un peu les choses. Hein. Pardonne-nous nos offenses, disons-nous, mais il y a une deuxième question qu'il faut se poser. Avons-nous jamais offensé Dieu ? C'est une vraie bonne question. Dieu n'est pas à notre image. Vous voyez, il n'est pas le petit marquis prétentieux qui serait offensé quand on ne lui rend pas hommage. Vous savez, on l'avait déjà vu avec l'argument de saint Anselme, vous vous souvenez, hein, la satisfaction vicaire. À proprement parler, alors, vous savez, c'est embêtant ça, ce que je vais dire, parce que pour les parents qui parlent à des enfants, ben, il faut bien de temps en temps simplifier les choses. Et souvent, on dit « Ah, le péché, c'est quoi ? C'est faire de la peine à Jésus. » On dit ce genre de choses. Bon, à proprement parler, ce n'est pas tant Dieu que nous offensons, mais nous faisons offense, nous allons contre le projet qu'il a pour nous. Et le projet qu'il a pour nous, c'est lequel ? Eh bien, c'est nous donner part à son héritage, la parabole des deux fils. Voilà le projet pour nous, nous donner part à son héritage, à son royaume. Et un péché, c'est quoi ? Ça veut dire se dérober, ça veut dire faire une sortie de piste. Mais on n'a pas offensé Dieu. Vous voyez, ce mot « offenser Dieu » revient, mais par un côté négatif cette fois-ci, à la relation bisounours du papounet. Vous voyez, papounet, offensé, tout ça, c'est les mêmes pathologies trop auto-centrées sur nos affectivités. Mais pourtant, en effet, nous pouvons biaiser cette vocation qui nous est confiée. Nous prenons pour nous, nous gâchons nos vies, nous dilapidons les biens, Voilà, on peut relire donc la parabole des deux fils hein, là-dessus. S'ajoute une difficulté. On a l'impression que le pardon est conditionné par notre propre attitude hein, dans la traduction de Luc. Pardonne-nous comme nous pardonnons. Il ne s'agit pas d'un traitement à l'image de notre comportement, heureusement pour nous. Pourtant, et là aussi, hein, Luc dit ça, mais Matthieu aussi le dit. Alors, pas dans la prière du Notre Père, hein, mais ailleurs, il le dit. Il dit dans Matthieu 6, donc en même groupe du discours sur la montagne, « Si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père non plus ne pardonnera pas vos fautes. » Ah, Or, il faut bien reconnaître que c'est quand même la plus grande difficulté de nos existences que de pardonner. Alors, il ne faut pas trop baisser la barre, vous voyez. En effet, c'est pour ça que la traduction a titubé. Hein, là, je suis en train de vous expliquer depuis 5 minutes pourquoi on n'a pas adopté la traduction de Matthieu. Parce qu'il y a bel et bien ça, et dans Luc, et dans Matthieu. Alors, dans Matthieu, ailleurs que de Notre Père, mais ça fait partie des enseignements du Christ. Le pire, en effet, hein, je développe un peu, mais le pire de toutes des maux de notre existence, c'est de ne pas pardonner. C'est de garder pour nous, de cultiver le ressentiment, la haine, l'aigreur, la guerre, la vengeance, la joie secrète de voir humilier notre offenseur, etc. En vérité, ça nous pourrit la vie. Et celui qui ne pardonne pas, se pourrit la vie. Et donc, l'attitude qui consiste à ne pas entretenir toute cette amertume est déjà une victoire pour la vie. Sans pardon, en effet, Luc a raison, sans pardon, notre vie est ravagée. Et quand il dit « pardonne-nous comme nous pardonnons », c'est parce que nous avons fait l'expérience que notre vie sans pardon est ravagée. Et donc, pardonne-nous. Voilà l'essentiel de cet enseignement sur le pardon. Deux choses encore, deux versions plus light et deux images pour expliquer ce « pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons nous-mêmes à ceux qui nous ont offensés ». La version que vous avez dans la prière liturgique. Donc, deux versions plus light et deux images. En Matthieu 7, verset 2, nous lisons ceci, « De la mesure dont vous mesurerez, on vous mesurera aussi. Pardonne-nous comme nous avons pardonné. » C'est une manière plus light de dire la même chose. Non pas que Dieu nous rendrait coup pour coup. Nous avons été des juges terribles, donc nous serons jugés d'une manière terrible. Alors ça, c'est abominable. Mais en effet, quand même, il est dit dans l'Évangile que si vous prenez sans cesse cette forme du jugement hostile, mais vous en prenez en effet la forme, vous devenez hostile. Hostile au pardon. Donc voilà ce que ça veut dire. Eh. La mesure dont vous êtes servi finit par vous faire, finit par vous rendre incapable de bonté. Vous êtes incapable de bonté, vous serez incapable de la recevoir, parce que vous ne la reconnaîtrez même pas. Quelqu'un fera preuve de bonté à votre égard, vous le traiterez d'imbécile. Vous essaierez de ruser avec lui. La mesure dont vous vous servez servira pour vous, ça veut dire ça. C'est très intéressant. Alors, il y a plusieurs occurrences hein, dans l'Évangile qui disent ça. C'est plus facile à comprendre ça que de dire « pardonne-nous comme nous pardonnons ». Si je ne pardonne pas, tu ne pardonnes pas. Bon, ça, c'est un peu trop court. Hein. Deuxième version, du light, « remets-nous ». Il y a une traduction possible dans Luc, chapitre 11, verset 4. « Remets-nous nos dettes, car nous aussi, nous remettons à nos débiteurs. » Car en effet, nous remettons à nos débiteurs. Ce qui veut dire, ce qui confirme maintenant en termes positifs ce que je viens de dire en termes négatifs, c'est-à-dire si vous êtes imperméable à la bonté, vous ne pourrez même pas recevoir la bonté qui vous sera faite. Eh bien là, vous voyez quelque chose de positif. La générosité crée en nous un habitus et nous en sommes capables. Remets-nous nos dettes, car nous aussi, nous pardonnons. Vous voyez, c'est une espèce d'affirmation positive. Et vous voyez, juste un mot qui change, car, et non pas comme, car nous aussi, nous remettons à nos débiteurs. Parce que naturellement, il y a en nous cette espèce de bonté qui fait grâce, qui caractérise notre aptitude à la miséricorde. Voilà. Et, alors ça, c'est une version light, plus ouverte, mais qui est autorisée par la traduction. Et puis, deux images. La première image, le Yom Kippour. C'est-à-dire, alors c'est très intéressant, le Yom Kippour. Hein. C'est une fête, c'est ce qu'on appelle le grand pardon. Donc, pardon. Et alors, le grand pardon, c'est obligation de pardonner aux autres. Mais alors, aussi, il y a un problème de traduction. Les Juifs aussi ont ce problème-là. Hein. Parce que le Yom Kippour, ce n'est pas le pardon des offenses. C'est la remise des dettes. Oh ! Quelle horreur ! Mais surtout pas, on ne va pas remettre nos dettes. Et donc, on s'est empressé dans le monde juif, comme dans le monde chrétien, de traduire par offense, péché. Voilà, donc, alors là, bien sûr, le jour du grand pardon, oui, on va pardonner à son voisin de s'être emporté, d'avoir cassé le pare-brise de la voiture, d'avoir insulté les gosses, ok. Mais alors, remettre les dettes, sûrement pas. Donc, déjà, les Juifs, vous voyez, avaient biaisé le truc. Ben, nous aussi. Et puis, vous avez une autre traduction chez nous hein, qui est tout à fait intéressante. C'est le grand pardon, c'est pas le grand pardon, c'est le pardon breton. Le pardon breton, pourquoi il est intéressant? C'est la même chose hein, que le Yom Kippour, la même idée. Hein. C'est qu'on fait, mais il est très intéressant, mais comme le Yom Kippour, il est communautaire. C'est une grande démarche communautaire. Si des fois vous n'avez pas réussi à dire pardon dans votre vie, alors il y a un jour pour ça. Et il y a un jour où, disons, ça se fait par le groupe, par la prière communautaire, même si vous, vous n'arrivez pas à le formuler. Parce qu'il y a des fois où ben, on est tellement coinceaux, on est tellement péteux de prétention et d'orgueil ben, qu'on n'ose pas demander pardon, qu'on ne veut pas. Eh bien, il y a un jour pour ça, le pardon breton. C'est ça l'origine du pardon breton. Hein. C'est très intelligent. C'est-à-dire, c'est le jour où tout ce qu'on n'a pas arrivé, tout ce qu'on n'a pas réussi à exprimer, ben, on le dépose là, quoi. Et voilà, on essaye de faire la paix au moins intérieurement. Allez, on poursuit et on va bientôt finir. Ne nous laisse pas entrer en tentation. Alors ça, vous savez, ça a fait l'objet d'une grande discussion de traduction. Hein. Il faut savoir que le débat existe depuis Origène. Origène, il est mort. C'est un homme qui n'est pas né. Par contre, il est mort, ça on en est sûr. Il est mort en 253, mais on ne sait pas quand il est né. En tout cas, c'est un très grand père de l'Église. Et déjà, lui, protestait contre l'idée que Dieu puisse nous éprouver. Ça, c'est génial. Hein. Vous savez, dans la traduction, « ne nous soumets pas à la tentation ». Il disait, mais non, quelle impiété. Dieu ne peut pas nous soumettre à la tentation. Ça, c'est génial. Hein. Déjà, Origène, vous voyez, 250. C'est formidable. Hein. Et déjà, avant lui, alors il le cite évidemment, avant lui, Saint Jacques, à nouveau. Et ça fait trois fois ce soir que je cite Saint Jacques hein, sur la prière. Ça vaut le détour comme Romains 8. Saint Jacques dit, oui, voilà la traduction actuelle, ne nous soumets pas à la tentation, et voilà ce que dit Saint Jacques. Je vous lis, que personne ne dise, mon épreuve vient de Dieu. Oh, c'est dans le Nouveau Testament. Que personne ne dise, mon épreuve vient de Dieu. Or, mes illustres prédécesseurs l'ont prêché pendant un siècle et demi. Ils ont dit le contraire. Dieu t'envoie des épreuves. Dieu t'éprouve. Bénis Dieu. Rends grâce à Dieu. Il t'arrive un malheur. Génial. Vous voyez, on l'a dit. Moi, j'ai encore entendu des gens qui se plaignaient d'avoir eu des prêtres qui ont osé leur dire « Vous avez un enfant handicapé, quelle grâce ! Quelle grâce Dieu vous envoie !» On est stupéfait. Et donc, vous voyez, depuis la nuit des temps, et même dans l'Écriture, que personne ne dise « Mon épreuve vient de Dieu ». En effet, je continue la citation, « En effet, Dieu ne peut pas être tenté de faire le mal, et lui-même ne tente personne. Chacun est tenté par sa propre convoitise, ça suffit largement, c'est moi qui ajoute. Chacun est tenté par sa propre convoitise qui l'entraîne sans cesse et le séduit. » Donc voilà, Saint Jacques, chapitre 1, verset 12. On aurait dû, vous savez, en rester à la traduction de 1964, « Ne nous laisse pas succomber à la tentation. » Mais c'était mieux, quoi. C'était mieux que de supposer qu'il y ait une intention chez Dieu de nous tendre des pièges. Et des épreuves, nous en aurons dans l'existence. Alors ça, c'est une tradition biblique aussi. C'est-à-dire, les épreuves, nous en avons dans l'existence. L'épreuve de l'exil, évidemment. Mais de ces épreuves, Dieu nous aide à sortir. Ce n'est pas lui qui a envoyé l'épreuve pour nous grandir. Il se fait que l'épreuve nous grandit. Mais il y a une petite nuance. Et d'ailleurs, elle ne nous grandit pas toujours. Et ce n'est pas Dieu qui fait l'épreuve. Des épreuves, vous en aurez dans votre vie. Elles viendront. Il ne faut pas les chercher et il ne faut pas les attribuer à Dieu. Par contre, dans l'épreuve, Dieu ne nous abandonne pas. Voilà, c'est... Alors nous, les Juifs, déjà, on avait l'intuition, et nous, chrétiens, évidemment, la crucifixion nous dit ça, nous dit explicitement ça. C'est-à-dire que dans l'épreuve, il nous rejoint. Il nous rejoint dans le pire. Non seulement dans la mort, mais dans la mort la pire. Ah, waouh! Donc voilà, c'est comme ça qu'il faut le comprendre, vous voyez, ça change les choses. Des épreuves, en effet, on en a de toutes sortes, il n'y a pas que la guerre. Une épreuve, en effet, ça, si vous voulez, c'est la trame de notre existence, et il y a des épreuves qui sont plus ou moins graves, il y a des épreuves qui sont des petits défis, et il y a des épreuves qui sont, en effet, des maux, un mal, des maux. Mais passer le bac, avoir un échec dans sa vie, traverser des périodes de crise, de relations, tout ça, c'est pas le mal. Voilà, c'est pas le mal. Et c'est la raison pour laquelle il y aura la dernière prière de notre Père, « Délivre-nous du mal ». Parce que l'épreuve, c'est pas le mal. L'épreuve, c'est normal. C'est la vie. Mais Dieu nous y accompagne. Donc voilà, ça c'est hyper important, y compris dans les épreuves les pires. Alors évidemment, de temps en temps, c'est un peu la nuit de la foi. C'est-à-dire, on a un peu de mal à voir comment on va s'en sortir, comment Dieu, qu'est-ce que Dieu peut dire quoi, au milieu des guerres, quelles leçons en tirer. On a du mal, évidemment. En tout cas, il faut se sortir de l'idée que ne nous soumet pas à la tentation. C'est bizarre qu'on ait réussi à dire ça. Mais c'était, vous savez, un problème de traduction. On a eu un problème de traduction et un problème de compromis avec, d'abord avec les églises protestantes, avec la double prédestination de Calvin. Il y avait à l'époque le chant du cygne de l'église calviniste qui a beaucoup, beaucoup, beaucoup insisté. On s'est un peu fait avoir, je pense, vraiment. Alors tout ça, c'est dans le livre de Carmignac. Dieu, en effet, ne nous tente pas, et un certain nombre de gens diraient, mes confrères disent, il ne tente pas, mais il laisse faire. Oui et non. Non seulement il laisse faire, vous avez un psaume qui dit ça, le psaume 80, non seulement il laisse faire, mais il nous accompagne dans l'épreuve. Donc voilà, il faut tenir les deux. C'est-à-dire, c'est pas lui qui crée l'épreuve, évidemment. Ce n'est pas lui qui nous tend des pièges pour nous éduquer, Mais il ne laisse quand même pas tout à fait faire. Voilà, ça c'est quand même pas mal, hein. Et donc, la vraie traduction, hein, enfin la vraie, celle qui me semble la plus juste, c'est « garde-nous dans la tentation ». Ce n'est pas lui qui nous envoie des tentations, bien sûr. Elles arrivent, comme les épreuves arriveront, mais garde-nous, sois avec nous dans la tentation. Voilà, il ne provoque pas la tentation, nous y sommes dans les tentations, mais il nous protège. Nous sommes dans la mêlée, il nous aide. Ce n'est pas lui qui nous plonge dans la mélasse, mais puisqu'on y est, il y vient et il nous accompagne. Donc voilà, ça. Alors le latin du Concile de Trente, dont vous voyez la mauvaise traduction ne date pas de Vatican II, le latin du Concile de Trente, 1563, proposait « ne nos inducas in tentationem », ce qui veut dire exactement la même chose. Ça veut dire « ne nous conduit pas à la tentation ». Vous voyez, c'est le même défaut. Dieu ne peut pas nous conduire à la tentation. Ce n'est pas lui, vous voyez, qui va mettre des panneaux en disant « tiens, passe par là, et puis passe par là, ah, tu t'es cassé la gueule, youpi ». Enfin, vous voyez, voilà, ne nous conduit pas en tentation. Comment pouvez-vous penser que Dieu nous conduise en tentation? Donc voilà, vous voyez, bon, j'insiste pas, hein. Carmignac, vous avez bien compris, Carmignac a proposé une très belle traduction. On a finalement adopté quelque chose d'assez proche. Carmignac proposait garde-nous, donc c'est une garde positive, hein. Garde-nous de consentir à la tentation. Ça, c'est très juste, hein. Et donc, aujourd'hui, on a une expression qui est très proche, « ne nous laisse pas entrer en tentation ». Bon, voilà. Ah oui, j'ai oublié de passer mes photos, voilà. Elle est jolie, pourtant. Voilà, ça, c'est Dieu qui nous tente. Voilà, et ne garde-nous de consentir à la tentation. Et il y a un ange gardien qui nous aide. Et la dernière, « mais délivre-nous du mal », elle est assez, hélas, facile à comprendre, parce que le mal habite toutes nos vies. Et alors là, ce qui est très intéressant dans cette prière « délivre-nous du mal », c'est que, pour le coup, on revient au « nous » du début, notre Père. Parce que « garde-nous du mal », on avait le pluriel, hein, sans cesse, mais là, on voit bien que dans le mal, il y a quelque chose d'énorme, il y a quelque chose de submersif, quelque chose de collectif. Les mots, les pires, sont les mots collectifs. Les guerres, les haines, vous voyez, tous ces trucs-là, c'est ce qu'il y a de pire. Et si nous ne sommes pas aujourd'hui prisonniers par le mal, d'autres le sont. Et dans des mots, évidemment, bien plus graves que probablement ce que nous connaissons. Et donc, garde-nous du mal, c'est l'occasion pour nous, surtout quand on est privilégié, c'est l'occasion pour nous d'ouvrir notre prière à un collectif, à la communion des saints. Alors voilà, donc, et puis je voulais finir avec une petite énigme en Cappadoce, on a encore un peu le temps, donc je vais pouvoir vous le faire. Vous allez voir, c'est très étrange. C'est très étrange. D'abord, la Cappadoce, c'est un pays magnifique. Il y a là-bas un monachisme qui s'est implanté dès le IVe siècle. Les pères cappadociens, Basile de Césarée, a fondé un monachisme et ils ont eu la curieuse idée, au lieu de construire des églises, de creuser des églises, un peu comme en Éthiopie. Et donc, ils ont creusé, c'est du tuf, vous voyez, on voit très bien sur cette très belle photo aérienne. Ça se creuse très facilement et on trouve en Cappadoce grand nombre d'églises creusées dans le tuf. Et là, on va aller voir une dans la vallée d'Illara, qui est très effondrée, mais c'est la plus ancienne que nous ayons. Elle date du 7e siècle. Et vous voyez, on voit la voûte, on voit l'abside, et puis il y avait un plancher. Et la chapelle était au-dessus, et en dessous, il y avait une salle funéraire. Et donc, c'était peint. Tout était peint, les murs, la voûte et l'abside. 7e siècle, hein. Impressionnant. Et en fait, on va découvrir dans ces fresques une petite énigme qui a un rapport avec notre sujet. Alors, on va voir si vous trouvez. Bon, pour l'instant, on approche de l'énigme. Hein. Je vais vous dire où elle est. Donc là, je vous décris rapidement. Vous voyez, on fait une contre-plongée. Là, je photographie la voûte et on voit la partie effondrée. Hein. Il y avait une grande croix sur la voûte. Puis vous voyez à gauche et à droite comme des traits. C'est une bande dessinée. Et puis là, c'est très abîmé parce que les musulmans qui ont conquis ce pays à partir du XIVe siècle, il n'y a plus de chrétiens, ils ont caillassé les images parce que chez eux, c'est interdit. Ils ont compris que c'était des images de la Bible, disons, pour eux, sans général. Et ils ont caillassé parce que c'est interdit. Et donc, elles sont très, très abîmées. Hein. Mais on voit quand même des choses grâce surtout au père Gère Fagnon qui a inventé, qui a découvert la Cappadoce entre les deux guerres et qui nous a fait des relevés de tous les dessins. Mais si vous regardez bien, vous pouvez voir quand même, on voit des registres différents, on voit des fonds avec des couleurs différentes, on voit très bien la bande dessinée là. Par exemple, on voit dans le registre du milieu, il y a trois bonhommes avec des espèces de capes, de petits manteaux rouges. Et puis, tout au milieu, vous voyez la Vierge Marie, en fait, allongée. Il s'agit d'une nativité. Parce que tout à fait juste sous le bras de la croix, vous voyez Jésus emmailloté. Voilà, donc vous voyez, on devine des choses. Hein. Et juste au-dessus, c'est l'Annonciation. Voilà. Là, voilà, un gros plan. Vous voyez, le dessin est très rustique. Hein. On est au 7e siècle. Très rustique, mais on reconnaît très bien hein. L'Annonciation. L'ange Gabriel annonce à Marie, voilà le dessin, vous voyez, pour que vous voyez mieux. Voilà les trois rois mages, vous voyez, qui arrivent, Joseph, Marie alitée, et le visage tourné vers Jésus, voilà le relevé de Gère Fagnon, donc qui nous aide à lire tout ça. Puis en bas, c'est la fuite en Égypte, le songe de Joseph, enfin, etc. Vous voyez. Et puis à droite, nous avons le registre du bas, nous avons Hérode avec les mages et au-dessus, les bergers. Donc voilà, ça se lit assez bien. Hein. Maintenant que vous l'avez vu avec le dessin, vous reconnaissez. Alors, comme quoi, vous savez, alors moi j'emmène des groupes là-bas assez souvent et au bout de 3-4 jours, on finit par tout lire, par comprendre assez facilement. Mais au début, c'est vrai que ce n'est pas si simple. Hein. Voilà la Vierge Marie. Rustique, mais vous voyez, on reconnaît très facilement, c'est pas mal. Voilà Jésus, on voit le bœuf, là, hein, et puis la sage-femme, avec le bain de Jésus. Voilà le détail hein, du bœuf. Bon, voilà. Regardez comme Jésus a échappé, le regard de Jésus a échappé aux Vandales. Alors l'énigme, la voilà. Une énigme qui a un rapport avec notre cours sur le Notre Père. Ce sont les bergers. Mais alors, regardez bien, ils ont des noms. Alors, dans les fresques cappadociennes, les mages ont des noms, les mêmes qu'aujourd'hui. Hein. Mais les bergers ont des noms aussi. Et ça, c'est une tradition qu'on n'a pas gardée. Et pourtant, c'est une très haute tradition. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi ils ont des noms? Parce que ça veut dire quelque chose, figurez-vous. Les voilà avec le relevé de Gère Fagnon. Et les cinq noms, ils sont cinq, comme les bergers sont trois, comme les mages sont trois. Vous savez que l'Évangile ne dit rien. Hein. On ne sait pas s'ils étaient trois, quatre, douze, les mages. Les bergers non plus, bien sûr. On ne sait pas combien ils étaient. On ne connaît pas leur nom, bien entendu. Alors voilà les noms qu'on a relevés dans la vallée d'Illara. Sator, Arepo, Tenet, Opéra, Rotas. Bien, ça veut dire quelque chose. Ah. Alors on a essayé, c'est calligraphié, regardez bien, hein, c'est calligraphié en gréco-roman, enfin bon, romain-gréco, hein, c'est bon. Ça veut dire ça en latin. C'est du latin de boucher charcutier. Rotas opera tenet sator, voilà. Les latinistes traduisent ça comme ça. Bon, ça a été une première hypothèse, mais on l'a abandonnée grâce à Carmignac. Carmignac est spécialiste du Notre Père. Ça a un rapport avec le Notre Père. Ah! Ces noms-là ont rapport avec le Notre Père. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi? Eh bien, on a trouvé, daté à peu près de la même période, à Pompéi, on a trouvé ce graffiti. Regardez-le bien. Rotas, ce sont les noms des bergers qu'on avait en Cappadoce. Il y en a qui ont des idées, oui? Alors, continuons. À la même période, on retrouve à Rome.
Vous m'entendez?
Oui.
Ah, je disais qu'il y avait une sorte d'anagramme, on retrouvait dans tous les sens tous les prénoms, en fait.
Bravo! C'est ce qu'on appelle un carré magique. Et donc, celui-ci, on le retrouve à Rome, tout près de la maison de Néron, dans une rue où il y avait des habitations bourgeoises. Sator, c'est l'inverse de Rotas. Opéra, c'est l'inverse de Arepo. Tenet, l'inverse de Tenet. Mais regardez, ça se lit absolument dans tous les sens. Donc, de gauche à droite, de droite à gauche, de bas en haut et de haut en bas.
C'était des palindromes déjà.
Alors voilà, c'est extraordinaire, extraordinairement complexe. C'est un carré magique. Sauf que c'était un code de reconnaissance des chrétiens. Pourquoi? Alors, la thèse de Carmignac, voilà le carré magique. Tenet, ça forme une croix. Donc, vous écrivez une première fois « Pater Noster ». Oh, ben ça, alors, il fallait y penser. Vous l'écrivez une première fois, P-A-T-E-R, vous barrez au fur et à mesure. Vous ferez l'exercice vous-même, vous allez voir, c'est marrant. Vous barrez tout, toutes les lettres. Vous le faites une deuxième fois. Pater Noster. Il vous reste deux fois Pater Noster et Alpha et Oméga. Et donc, vous voyez, c'était un moyen à Pompéi, à Rome, de repérer l'adresse des chrétiens. Heureusement, les Romains ne l'ont jamais découvert. Et donc, par exemple, vous aviez gravé sur la porte ou à côté de la porte de quelqu'un, Opéra. Et le facteur, lui, il savait très bien que le monsieur, il ne s'appelait pas Opéra, il s'appelait, Cornus Magnus ou un truc comme ça. Et il y avait marqué Opéra. Et c'était un signal pour les chrétiens. Voilà, c'était un Notre Père crypté qui servait de signaux pour les chrétiens, qui s'appelaient tous, donc ils avaient des surnoms codes qui tenaient dans ce carré magique. Rotas, Sator, Arepo, Opéra, Tenet. Voilà. Ça, c'est dans la thèse de Carmignac. C'est quand même assez étonnant, hein. Et donc, la première hypothèse, la traduction latine, n'a pas tenu, hein. Je ne voulais pas dire grand-chose. Alors que ça, oui, maintenant, tout le monde en est à peu près convaincu. Ça fait l'objet d'un petit roman, d'ailleurs, publié chez Actes Sud, qui s'appelle « Le carré magique », qui est très intéressant. Et bien voilà, c'est avec cette petite énigme qu'on arrête ce cours, avec ces belles images de Cappadoce, un beau visage, vous voyez, qui a échappé aux Vandales. Et voilà. Eh bien, on se reverra, en fait, quand vous finirez le parcours, parce que je reprends les derniers cours en seconde année sur la doctrine sociale du pape François. Voilà, eh bien, bonne nuit. Et après moi, vous aurez Aude Ragozin, qui vous fera un cours donc sur l'anthropologie chrétienne. L'anthropologie chrétienne, c'est la création, les fins dernières, la grâce, et toutes ces choses-là, quoi. Voilà.
Merci, c'était super. Ça a été.
Merci
Bernard. La prochaine, probablement, parce que j'ai.
Très bien.
Merci beaucoup.
Oui, merci beaucoup.
Puis-je vous poser une petite question complètement en dehors du cours?
Oui, faites.
J'ai à la maison, qui me vient de papa, un grand Christ en bois de taille quasi humaine qui devait être un ancien crucifix qui n'a plus de bras. Que j'ai suspendu dans mon salon, peu importe. Et est-ce que je pourrais vous envoyer sa photo pour que vous nous disiez peut-être
sa période ? Bien sûr, oui, ça m'intéresse.
Hein ?
Oui, oui.
Il faut que je l'envoie où, au secrétariat, quoi ?
Oui, oui, bien sûr, là, bien sûr, j'y suis très souvent. Hein.
J'envoie au secrétariat en disant oui. Que c'est pour vous ?
Oui, voilà.
Parfait. Bon.
Très bien, merci. Bon, allez,
merci.
Bonne suite à tous.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup, mon père.
Au revoir.
Au revoir.
Au revoir. Au revoir.